Le texte de l'épître de ce jour, qui sera celui de notre méditation, se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Excusez-moi. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Ces quelques versets, la dernière partie, la deuxième partie du texte que je viens de vous lire, les versets 6 à 11, sont certainement l'un des textes les plus anciens que nous possédons sur Jésus. Il s'agit d'un hymne, d'une confession de foi de l'Église primitive que Paul cite ici et qui a été composé très peu de temps après la mort de Jésus, bien avant que Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivent leur évangile. Si Paul cite ce texte ici, car c'est une citation dans la plupart de vos Bibles, vous le verrez, c'est en italique ou entre guillemets, ce n'est pas par spéculation dogmatique sur la nature du Christ, ce n'était pas sa préoccupation. C'est pour développer toute une conception de la vie chrétienne fondée sur une vision bien précise de qui était le Christ. En fait, c'est pour nous parler de nous, de nos vies, qu'il nous parle de Jésus. Et dans la suite du texte, je lirai un peu tout à l'heure, il analyse et explicite son propre parcours spirituel à la lumière du parcours du Christ, tel que le décrit notre texte. Et partout ailleurs dans ses lettres, il en tire des conséquences, y compris en ce qui concerne la vie en Église, la vie communautaire et la vie en société. On remarque que cet hymne est entièrement centré sur le Christ, comme toutes les confessions de foi anciennes, d'ailleurs. Quand je dis anciennes, je veux dire bibliques. Les confessions de foi trinitaires, vous savez, je crois en Dieu le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit, sont venues plus tard, quand l'Église a voulu réagir face à certains courants déclarés hérétiques, mais on ne les trouve pas dans la Bible. Il est remarquable, d'ailleurs, que très tôt, avant même les rédactions des lettres de Paul et des évangiles, l'Église ait su formuler avec autant de précision cette vision du Christ tellement différente de ce qu'on a pu en dire dans les siècles qui ont suivi. Et en effet, d'emblée, il est affirmé que le Christ est vraiment Dieu et pas seulement un prophète, ce qui était très difficile à admettre, car cela suppose un Dieu qui se révèle dans la finitude de l'humanité, en cet homme, en qui il est pleinement lui-même. Et c'est ce qui est inacceptable pour beaucoup de religions et pour un certain nombre d'églises chrétiennes aussi, qui se débrouillent de détourner les choses pour ne pas aller jusqu'au bout de cet abaissement de Dieu en Jésus-Christ. Alors que l'homme, habité de son désir de devenir comme des dieux, attend généralement de son Dieu qu'il y aide un peu, ou au moins qu'il l'aide à gravir quelques échelons, à s'élever un peu. L'hymne, lui, nous décrit un Dieu devenant homme et s'inscrivant jusqu'à la mort dans la finitude humaine. C'est un Dieu qui inclut du manque, un Dieu en qui il y a du manque, un Dieu en qui, nous dit littéralement le texte, si on le traduit à la lettre, en qui il y a du vide. En lui, il y a ce manque, ce vide, afin que l'homme accepte, puisse accepter d'être un homme et non un Dieu. C'est exactement ce que dit Paul en employant littéralement donc ce terme de « se vider de tout ce que les hommes attendent normalement d'un Dieu ». Bien sûr, une lecture un peu rapide du texte peut nous donner envie de répondre « D'accord, il s'est abaissé, il s'est vidé », pour utiliser encore une fois les mots de Paul, mais ensuite, il a été élevé. C'est bien ce qui est dit dans le texte. Après la mort, il y a eu la résurrection. Mais il ne faut pas se tromper là. La résurrection n'est pas pour le Christ une revanche, une annulation de la croix, une occasion de retrouver son statut de toute puissance céleste. C'est en tant que crucifié qu'il est à jamais le Seigneur et qu'il reçoit comme tel le culte de l'Église. L'Apocalypse, qui est une liturgie de culte, en fait, l'Apocalypse insiste, par exemple, pour ne citer que ce texte-là, insiste lourdement là-dessus, vous le savez si vous l'avez lu, en décrivant le culte chrétien comme culte à l'agneau immolé jusqu'à la fin des temps. La résurrection, en fait, est le oui de Dieu sur la croix, pas son effacement, pas son annulation. Je crois que c'est important pour comprendre ce texte, de comprendre cela. Ce qui intéresse Paul, et j'espère donc vous aussi, ce sont donc les conséquences que cette vision du Christ a dans nos vies. Je vous disais que c'était pour nous parler de nos vies que Paul parlait du Christ de cette manière. C'est pour en montrer toutes les implications dans nos démarches spirituelles que Paul cite cette confession de foi. Alors, une première lecture sur le début du chapitre 2 que je vous ai lu pourrait paraître décevante car l'apôtre semble utiliser cette citation simplement pour illustrer une leçon de morale. Hein, ne vous élevez pas, prenez en considération les autres, humiliez-vous comme le Christ, considérez les autres comme meilleurs que vous-même, etc. Cet hymne remarquable serait-il limité à conforter un appel à l'humilité morale, appel que l'on peut trouver partout, chez de nombreux penseurs païens de l'époque d'ailleurs? Si c'était cela, Dieu n'avait pas besoin de se faire humain. Dieu n'avait pas besoin de se faire humain si c'était seulement pour nous faire une leçon de morale. Il aurait pu le faire plus simplement. Voilà, nous le dire. Et nous promettre des punitions si on ne le faisait pas. C'est comme ça qu'on fait avec la morale. Heureusement, la réalité est beaucoup plus profonde, vous vous en doutez. Alors écoutons la suite, telle que l'apôtre l'écrit au chapitre 3, et dont je vous lis quelques extraits, et peut-être ça peut nous éclairer. J'aurais bien des raisons de placer ma confiance en moi-même. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, devenu irréprochable en ce qui concerne la justice qui s'obtient par l'obéissance à la loi. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme une ordure afin d'obtenir Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice qui vient de moi, qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi du Christ, la justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Non que je l'ai déjà, que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par le Christ. Voilà comment il continue au chapitre 3. L'apôtre, pour reprendre ça, analyse son propre parcours spirituel à la lumière du mouvement même du Christ, tel que le décrit la confession de foi. Saul de Tarse est d'abord plein de confiance en lui-même. Grâce à ses œuvres conformes à la loi, il ne lui manque rien. Fort de tout ce qu'il fait de bien, il ose se tenir debout devant Dieu, dans un statut, disons, de plénitude. Comme le Christ, d'une certaine manière, au début de notre passage, qui était même l'égal de Dieu. Par la suite, se vidant de sa propre justice, il emploie le même mot, c'est pas un hasard, se vidant de sa propre justice, il se tient devant Dieu, les mains vides, dans le manque, afin de recevoir la justification par la foi seule, par la seule parole justifiante de Dieu, exactement comme le Christ dans l'hymne. Et enfin, la parole de grâce le remet debout, mais pas comme il était avant. Cette justice venant de la foi ne le remplit pas de lui-même, ne fait pas de lui un surhomme, quelqu'un qui aurait réussi à respecter la loi et qui serait, encore une fois, plein de lui-même. Il demeure dans le manque, en attente de la réalisation finale de la promesse, et il va devoir vivre dans la foi et dans l'espérance, plutôt que dans l'évidence. Vous avez remarqué que c'est le schéma de nos cultes aussi, de notre liturgie, où on s'abaisse pour être remis debout avec la confession des péchés, la promesse de grâce, mais on n'est pas remis debout comme on était avant. On est remis debout différemment. Cette confession de foi donc fournit à Paul le schéma d'une nouvelle manière, à l'époque, de se tenir devant Dieu, le schéma d'une nouvelle spiritualité qui va prendre à contre-pied la religiosité des Juifs de l'époque comme celle des Grecs et qui permet d'assumer pleinement notre humanité en relation avec Dieu. C'est exactement cela que Luther redécouvrira à la Réforme et qui va mettre en route tout ce mouvement de la Réforme. Alors en introduction, je disais que ce cheminement de Paul, fondé sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ, peut aussi se lire à un niveau communautaire, sociétal même, à un moment où l'on nous reparle de croissance, où l'on veut absolument relancer celle-ci. On nous avait laissé entendre que peut-être après le confinement, tout ça, on chercherait une autre voie, mais apparemment c'est plus le cas. À un moment où la tentation donc d'une société prométhéenne à la croissance infinie refait surface, malgré l'épisode de la Covid, malgré le réchauffement climatique, malgré l'appauvrissement de toute une partie de l'humanité, il importe que le Christ de comprendre, de se souvenir que le Christ a renoncé, lui, à sa puissance, pouvoir, qu'il a accepté de décroître, de s'abaisser pour nous montrer la voie d'une autre forme de puissance. Vous savez, en grec, il y a deux mots, dans la langue du Nouveau Testament, il y a deux mots différents que nous traduisons par puissance. La puissance pouvoir, à laquelle Paul nous invite à renoncer, et celle qui, toujours selon Paul, s'accomplit dans la faiblesse et qui est une puissance créatrice, dynamique. D'ailleurs, le mot grec, c'est dynamis. Cette puissance qui ne s'impose pas, qui ne cherche pas à dominer les autres, mais qui les aide à avancer sur leur chemin. Cette puissance qui ne cherche pas à exploiter la création non plus, mais à coopérer avec elle. Bref, la puissance de l'amour. Et c'est donc individuellement et communautairement que nous sommes appelés à vivre notre spiritualité selon le schéma de cette confession de foi, selon le schéma exposé ici par Paul. Les conséquences en seront nombreuses dans nos vies, et c'est chaque jour que nous les découvrirons, non comme des leçons de morale, non comme une dogmatique, mais comme des chemins de vie. Amen. Et nous chantons le chant suivant, « Jésus, toute la terre entonne ». qui est le numéro 264. Comment la faute pour t'adorer est devenue s'adorer, mais je ne vous demande pas de vous adorer vous-même, n'ayez crainte, je ne sais pas ce que c'est un copier-coller sur un... je ne sais pas comment cette faute a pu se glisser là, mais voilà. Heureusement, on n'est pas toujours attentif à ce qu'on chante. Nous allons voir maintenant le moment de l'offrande.